France Inter. Frédéric Mettezeau, le 6-9 de l'été.
Bonjour Philippe Martinez.
Bonjour.
Secrétaire général de la CGT, invité du grand entretien de France Inter. Les auditeurs pourront dialoguer avec vous et vous interroger dans une dizaine de minutes au 01 45 24 7000. C'est la nouvelle de la nuit, Philippe Martinez, le repreneur de l'aciérie Ascoval de Saint-Saulve dans le Nord. Son repreneur britannique est en redressement judiciaire et en cessation de paiement. 1500 salariés de nouveau dans la tourmente. C'est la malédiction à Saint-Saulve, hein. Ils enchaînent les repreneurs qui ne sont pas assez solides. Et pourtant, dans le cas présent, l'État, les collectivités locales, les syndicats ont essayé de travailler main dans la main. C'est inéluctable, cette désindustrialisation ?
Ah non, absolument pas. Ça, il y a, en ce qui concerne Ascoval, mais plus généralement l'industrie, il y a besoin d'avoir une politique réfléchie où on fait des investissements, où on fait venir des financiers qui ne sont pas des industriels, et donc c'est ça qu'il faut inverser. L'industrie, c'est pas la banque, c'est des investissements à long terme, c'est pas les bénéfices ou les dividendes versés à la fin de l'année. Donc c'est ça le problème, et on voit bien qu'un certain nombre de décisions du gouvernement ne sont pas suffisamment réfléchies, ou en tout cas pas suffisamment construites, et ça donne ce que ça donne à Ascoval. Mais on pourrait parler de General Electric, qui est, moi je m'en souviens très bien, une décision où M. Macron, alors secrétaire général adjoint de l'Élysée, avait beaucoup influé pour qu'on casse Alstom en deux, puisqu'Alstom Transport et Alstom Power, enfin Alstom Energy, la branche énergie était ensemble. On a dit non, il faut les séparer, vous allez voir, c'est l'avenir, ça sera mieux pour les deux branches, et puis on voit le résultat.
Mais restons sur Ascoval, vous voulez dire, Philippe Martinez, que l'État s'implique, mais qui s'implique mal ?
L'État s'agite. Parce que, pour des raisons électoralistes, certainement. Et je vous dis, c'est pas la première fois. On pourrait citer GMS, on pourrait citer Ford. Ce qu'il faut, c'est avoir une vraie politique industrielle. Ça veut dire trouver des industriels qui mettent de l'argent, et pourquoi pas l'État ? Et pourquoi pas l'État, pour construire un vrai projet. Ascoval, c'est une entreprise magnifique qui fait de l'acier. On essaye, j'allais dire, de mettre un pansement sur une jambe de bois. Et c'est la deuxième fois qu'on dit qu'on a trouvé un investisseur formidable, tout va bien. Et puis, quelques semaines après, on voit que l'argent n'est pas là. Moi, je pense aux salariés. Vous imaginez...
1500.
Oui, mais le chaud et le froid qu'ils subissent, on est sauvés. Et puis... moralement, physiquement, c'est dur. Alors que c'est une entreprise, je le répète, qui est importante, qui est viable et qui dégage de l'argent.
Philippe Martinez, aujourd'hui, les partenaires sociaux, dont la CGT, doivent rendre un avis consultatif sur le projet de réforme de l'assurance chômage. Je résume en quelques mots ce projet de réforme. Il faudra avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois pour toucher des allocations. Jusqu'ici, c'était 4 mois sur les 28 derniers. Il y aura dégressivité des indemnités pour les plus hauts salaires au-delà de 4 500 € par mois. Les démissionnaires seront indemnisés, mais alors à des conditions très strictes, donc très très limitées. Et puis, il y aura un bonus-malus si l'entreprise recourt trop au CD des cours. Que va dire la CGT de ce projet de réforme ? Bien ? Pas bien ?
La CGT a déjà dit que c'était pas bien, parce que vous avez parfaitement résumé la situation. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler plus longtemps sur une période plus courte pour pouvoir bénéficier d'allocations chômage. En fait, c'est la stratégie du gouvernement depuis qu'ils sont en place. C'est ceux qui n'ont pas grand-chose... Pour Monsieur Macron et Monsieur Philippe, c'est encore trop. Et donc, cette mesure, le fait de travailler plus longtemps sur une période plus courte, va écarter d'ores et déjà 300 000 allocataires du chômage. C'est-à-dire que on veut faire des économies sur le dos des chômeurs. C'est une petite musique qui consiste à dire que les chômeurs sont des privilégiés parce qu'ils seraient payés à rien faire. Vous savez, seulement 43% des chômeurs sont indemnisés, 43%, avec en moyenne 1 000 € par mois. Est-ce que on peut vivre avec 1 000 € par mois ? Est-ce qu'avec 1 000 € par mois, on est un privilégié ? Et ça ne représente que, je le répète,
43%. mais par exemple, le bonus-malus pour les contrats précaires qui se pérennisent en réalité, ou bien les 1000 nouveaux conseillers Pôle emploi, c'est, ça fait pas peser la balance dans l'autre sens pour vous ?
Enfin, en tout cas, le bonus-malus, comme vous dites, enfin comme la loi le prévoit, du bonus, les grandes entreprises en ont déjà beaucoup. Donc parlons, nous on préférait parler du malus. Pourquoi un certain nombre d'entreprises, privées et publiques d'ailleurs, multiplient les contrats précaires, des contrats d'une journée, etc. Ces entreprises devraient être taxées. Or, le niveau de la taxation du malus n'est pas suffisant. J'entendais des grands patrons qui disaient « Bon, vous savez, ça va me coûter 500 euros par an, je peux passer le cap. » Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on entre, plutôt que de renforcer, ou en tout cas de déplacer des agents de Pôle emploi pour contrôler, soi-disant, les fraudeurs du chômage, qui ne représentent, eux, que 0,4% du chiffre total des privés d'emploi. Eh bien, on ferait mieux d'embaucher, que ces personnes-là soient affectées à aider les privés d'emploi à trouver du boulot. Parce que le rôle de Pôle emploi, c'est pas de réprimer les chômeurs, c'est de leur trouver du boulot. Or, c'est ça le problème. On manque d'effectifs à Pôle emploi, et c'est bien ça qu'il faut corriger.
D'autres agents, aujourd'hui, font l'actualité, ce sont les inspecteurs du travail. On en parlait dans le journal de 8h avec un reportage de Claire Chaudière. Ceux qui contrôlent la qualité de vie au travail ont eux-mêmes des grandes difficultés dans leur travail. Qu'est-ce que vous avez dit à Madame Pénicaud, la ministre de l'Emploi, sur cette question ?
Ça fait un moment qu'on lui dit aussi des choses. Moi, j'étais avec les inspecteurs du travail il y a quelques semaines où ils manifestaient. Ils ont interpellé d'ailleurs la représentante de la ministre au Conseil économique, social et environnemental. Il faut lui dire que, mais là, c'est du fonctionnaire bashing. C'est-à-dire que sur l'idée, il y a trop de fonctionnaires, on rase tout. Les inspecteurs du travail et inspectrices sont là pour faire respecter la loi en matière de conditions de travail, mais aussi en matière de durée du travail, contre le travail informel, etc. C'est essentiel. Or, ils ne sont pas assez nombreux. Et ils ont tellement de dossiers à gérer qu'ils sont eux aussi victimes de burn-out, de mauvaises conditions de travail. Et comment, mais ça c'est valable pour tout le monde, mais comment voulez-vous vous occuper de salariés en difficulté qui ont des problèmes quand vous-même, vous n'êtes pas en pleine forme.
Et d'ailleurs, c'était la une du Monde hier après-midi. Hein, les accidents du travail, c'est une dizaine de morts par semaine.
Effectivement, et c'est inquiétant. C'est inquiétant. Il y a une forte dégradation des conditions de travail.
Souvent chez les intérimaires, d'ailleurs.
Évidemment, c'est eux qui sont les plus polyvalents. C'est eux qui font le sale boulot, comme on dit. C'est dur de changer de boulot toutes les semaines, d'avoir la crainte du lendemain parce qu'on ne sait pas si on va avoir une mission. Vous savez, cette petite musique qui consiste à dire « Mais c'est un choix qu'ils font pour avoir plus de liberté. » C'est autre chose.
Autre réforme du gouvernement, elle sera présentée après-demain, c'est celle des retraites. On sait déjà que la CGT s'y oppose, mais Philippe Martinez, dans 6 ans, il manquera 15 milliards pour financer les retraites, et même 10 milliards dans les 3 ans à venir. On peut maintenir le statu quo ? Il faut bien essayer de faire quelque chose, non ?
Bien sûr qu'il faut faire quelque chose.
Alors qu'est-ce qu'on fait ?
Eh ben, on fait, premièrement, on remet des cotisations sociales, pas des charges, des cotisations sociales à toutes ces grandes entreprises qui sont exonérées de cotisations sociales, vous voyez ? Quand on paye des cotisations sociales, c'est bon pour la santé, pour la sécurité sociale et donc pour les retraites. Il faut créer des emplois. Parce que plus on crée d'emplois, plus il y a de rentrées d'argent dans les caisses de la sécurité sociale. Il faut augmenter les salaires. Parce que automatiquement, quand on augmente les salaires, ça fait... Parce que le projet...
Alors c'est la cotisation est au prorata.
Exactement. Parce que alors c'est pas encore le projet du gouvernement d'ailleurs, hein, c'est le rapport de monsieur Delevoye, monsieur retraite.
Monsieur retraite et en effet qui va remettre ses préconisations au gouvernement.
Qui est déjà catastrophique ce projet, mais peut-être que le gouvernement va remettre une petite louche, si vous me permettez l'expression.
Je vous en prie, mais vous n'avez pas le sentiment tout de même que le gouvernement recule un petit peu, c'était raconté hier par l'opinion, le quotidien économique qui disait bah finalement la mesure elle devait rentrer en 2020, elle va rentrer plutôt progressivement de 2020 à 2025, qui aurait un, si ce n'est un recul, du moins une temporisation. Ça vous donne pas un peu d'espoir à vous ?
Écoutez, moi je ne crois que ce que je vois.
Croyez pas l'opinion ?
Moi je vais écouter ce que dit monsieur Delevoye et surtout ce que dira le gouvernement dans la foulée. parce que il a l'intention, le gouvernement, premièrement de faire ça en deux fois. Il y a un projet de loi sur le financement de la sécurité sociale et il pourrait être annoncé qu'on augmente le nombre de trimestres nécessaires pour partir à la retraite. Ça, c'est une réforme issue du précédent gouvernement.
Pour l'instant, on évoque toujours l'âge de 62 ans, mais 64 ans pour un taux plein, ce qu'on appelle un âge pivot, un âge bascule.
Ça, c'est vraiment nous prendre pour des imbéciles. C'est nous dire, on ne change rien, mais enfin, si vous voulez manger avec votre pension de retraite, il va falloir travailler 2 ans de plus. Ça s'appelle prendre les gens pour des imbéciles. Mais ce qui est plus grave, c'est que ceux qui vont être les principales victimes de cette réforme, c'est ceux dont on parlait, les précaires, les intérimaires, qui n'auront pas une carrière complète. Or, vous le savez, le projet de M. Delevoye, c'est au lieu de se baser sur les 25 dernières années, meilleures années, pardon.
On prend toutes les années.
On prend toutes les années.
Et chaque euro donne un point.
Oui, enfin, mais quand vous avez commencé, et c'est la majorité des jeunes, enfin même déjà depuis un petit moment, qui commencent par des temps partiels, je pense aux femmes, qui commencent par de la précarité, de l'intérim, ben vous imaginez le début de carrière, comment il est haché, eh bien, ça va faire partie de la période de référence. Donc, forcément, nous on résume ça comme ça, hein, petit boulot, petit salaire, très petite retraite.
On va aller au standard de France Inter au 01 45 24 7000. Est-ce que nous avons Gérard en ligne?
Oui, bonjour Monsieur Martinez, bonjour.
Bonjour.
Et moi c'est une question qui se rapporte à la loi sur les territoires zéro chômeur de longue durée. J'habite à côté de Thiers où il y a une expérimentation, il y a 10 territoires en France qui expérimentent cette loi qui a été votée à l'unanimité au début 2016 à l'Assemblée nationale et au Sénat, donc personne ne peut s'y opposer. Je trouve que c'est absolument formidable ce qui se passe. Et est-ce que la CGT serait d'accord pour étendre cette loi, voire même la généraliser?
Merci Gérard de nous avoir appelé depuis Thiers. Thiers, c'est près de Clermont-Ferrand, c'est ça?
C'est dans le Puy-de-Dôme, oui.
C'est dans le Puy-de-Dôme. Philippe Martinez, vous connaissez mieux la géographie que moi.
Je connais Thiers.
Cette expérimentation, territoire zéro chômeur, vous avez, vous, dans vos sections locales de la CGT, regardé comment ça marchait?
Y compris dans certains territoires zéro chômeur, nous participons à ce qui se passe, quoi. Il y a un conseil qui me permet de vérifier ce qui se passe. La deuxième loi, d'ailleurs, est en préparation. Elle doit améliorer. Nous, les réserves que nous y mettons, ça permet une insertion des chômeurs. Mais les réserves que nous y mettons, c'est qu'il faut, premièrement, que ça permette une vraie réinsertion et une évolution professionnelle pour ceux qui sont privés d'emploi. Deuxièmement, que ça ne soit pas une substitution à des services publics, parce qu'il y a parfois la tentation d'externaliser des fonctionnaires, ou en tout cas des métiers que font les fonctionnaires, des activités que font les fonctionnaires pour occuper des chômeurs. Donc voilà les restrictions. Mais évidemment, tout ce qui contribue à faire retrouver du boulot à ceux qui n'en ont pas est essentiel. Donc il y a des expérimentations, la CGT y participe. Globalement, elles sont plutôt intéressantes, mais nous allons travailler avec des associations pour que la seconde loi qui arrive, eh bien, améliore la situation de ces chômeurs.
On va retourner au standard à 8h35 sur France Inter. Est-ce que Didier est en ligne?
Oui, bonjour.
Bonjour Didier, soyez le bienvenu, on vous écoute.
Alors voilà, moi c'est plutôt un témoignage qu'une question. J'ai 66 ans maintenant, je suis à la retraite depuis, ça fait un mois. J'ai fini ma carrière pendant 5-6 ans dans la grande distrie, dans un supermarché. Ça m'a permis, grâce au contrat court, de pouvoir travailler jusque-là et de finir pour avoir tous mes trimestres. Le magasin, lui, ça l'arrangeait également. C'était donnant-donnant, enfin gagnant-gagnant. Et je vois pas pourquoi on s'acharne à vouloir accuser les entreprises de profiter de ces contrats courts
qui, Restez en ligne, Didier. Restez en ligne. Ouais. Philippe Martinez va vous répondre et vous pourrez dialoguer.
Je vous remercie.
Philippe Martinez, Didier nous dit, moi j'ai trouvé que c'était pas si mal les contrats courts, c'était gagnant-gagnant.
Oui, mais le problème c'est que pourquoi on fait pas un CDI au lieu de multiplier pour une même personne les contrats courts, les contrats très très courts. Je vous rappelle qu'il y a des contrats d'une journée. Voilà, c'est ça la question. Pourquoi on ne pérennise pas l'emploi ? Ça permet...
Quitte à avoir un temps de travail modulé sur l'année selon les besoins.
Ça existe dans beaucoup d'entreprises, et notamment dans le commerce, notamment dans la distribution. Donc, le problème, il est là, c'est qu'on préfère précariser l'emploi plutôt que d'offrir des perspectives à un certain nombre de salariés. Alors, quand on est en fin de carrière, je connais pas précisément ce qu'a vécu Didier, mais il y a beaucoup de salariés en fin de carrière qui sont obligés, pour avoir leur trimestre, pour avoir une pension, de travailler un petit peu, de temps en temps. C'est pas comme ça qu'on construit sa vie, y compris qu'on finit sa vie professionnelle. Il y a besoin de sécurité. Il y a besoin de sécurité.
Didier, que vous inspire la réponse de Philippe Martinez ?
Ah bah, quelque part, c'est dans un monde merveilleux, mais bon, ça se passe pas toujours comme ça. Et pour les entreprises, c'est aussi compliqué d'avoir des gens embauchés en CDI, parce qu'à un moment ou à un autre, il faut des fois pouvoir s'en séparer facilement. Moi, j'ai été moi-même artisan à mon compte, je travaillais tout seul, c'était quelque chose de saisonnier. Et il y avait des moments où j'avais besoin d'un coup de main parce que je pouvais pas y arriver, mes commandes tombaient tout en même temps. Et c'était impossible pour moi d'embaucher parce que c'était trop compliqué, c'était des charges énormes, enfin c'était pas possible. Donc après on peut parler de la baisse des charges, ça c'est sûr. Mais en attendant, soldait, c'était des copains qui venaient me donner un coup de main et puis voilà quoi.
Ouais. Merci.
Donc mais par contre j'insiste bien, à travers ces contrats courts, on peut se retrouver avec un système gagnant-gagnant parce que ça dépanne, c'est simple, et il n'y a pas que des patrons qui exploitent les salariés. Alors, je ne défends pas l'entreprise à tout prix.
Merci.
Merci
Didier.
Sur certains
on va voilà, laisser Philippe.
Merci d'avoir pris mon témoignage.
Avec plaisir. Philippe Martinez conclut sur ce dossier.
Alors, moi, la première chose, c'est que oui, je rêve d'un monde merveilleux parce que le monde tel qu'il est, je crois qu'on est nombreux à ne pas en vouloir. Moi, je parle des grandes entreprises, pas des artisans qui ont besoin de souplesse. Enfin, quand on parle, je vais pas citer de marque, pardon, les enseignes qui licencient en ce moment, vous voyez, eux, ça va pour eux.
On peut en parler, Conforama.
Par exemple, eux, ça va pour eux. Or, eux multiplient les contrats courts. Je vais souvent rencontrer les salariés. On les maintient dans les contrats courts pour qu'ils soient polyvalents. On passe du rayon boucherie au rayon fruits et légumes, etc., etc. Et on les maintient dans la précarité. Or, vous savez très bien, et Didier le sait, qu'on ne peut pas construire sa vie en étant précaire. Pas de possibilité de logement, ou en tout cas des difficultés pour avoir un logement, pour avoir des prêts, etc. etc. Donc oui, rêvons d'un monde merveilleux, on en a besoin.
Avant de retourner au standard où Yvan nous attend, je vais synthétiser plusieurs questions arrivées sur franceinter.fr. Guillaume et José nous disent, José et Antoine, c'est cela, nous disent, vous êtes jamais content, vous avez une vision à charge, il n'y a jamais rien de positif. Et puis question d'Alexandre dans la foulée, comment expliquez-vous que les Français soient si peu syndiqués par rapport notamment à leurs voisins allemands? Bref, est-ce qu'à force d'être trop contestataires, ça ne rebute pas certains salariés pour venir se syndiquer, Philippe Martinez?
On est souvent content. Mais on n'est pas souvent content des lois proposées par le gouvernement. On conteste ces lois, et vous en avez cité quelques-unes, et j'ai expliqué pourquoi nous... Mais on fait des propositions. Mais à chaque fois qu'on fait des propositions, on nous dit « Non, mais c'est utopiste. Ah non, mais vous êtes à contre-courant. » Ou alors « Vous êtes dans un monde merveilleux. » On fait des propositions sur les retraites, sur les salaires, sur l'industrie, sur la sécurité sociale.
Vous ne voyez pas tout le temps le verre à moitié vide?
Non, nous on rêve du verre
bien plein.
Plein, où tout le monde peut boire à sa soif. Voilà, c'est ça. Or là on nous demande de partager la misère. Mais pendant ce temps-là, les premiers de cordée, ils en ont plein les poches.
Allez, comme promis, au standard, Yvan est en ligne. Bonjour.
Oui, bonjour à tous. Oui, bien le monde merveilleux de monsieur Martinez, ça pourrait exister, il faudrait simplement qu'ils militent pour obtenir le référendum d'initiative citoyenne en toute matière, qui existe en Suisse et par exemple en Italie, où les citoyens peuvent demander l'abrogation d'une loi qu'ils estiment inappropriée ou injuste, et où les syndicats, par exemple, peuvent faire des propositions de loi. Alors, monsieur Martinez demande l'abrogation de loi, il a des propositions magnifiques. Je voudrais qu'il explique aux auditeurs, et notamment aux salariés qu'il prétend défendre, pourquoi, alors que 83% des Français sont favorables au RIC, eh bien lui ne le demande jamais, n'en parle jamais dans aucun média.
Merci de votre question. Yvan, la question est posée à Philippe Martinez.
Nous sommes pour plus de démocratie, mais à tous les niveaux, pas uniquement le RIC. Monsieur Yvan a parlé de la Suisse.
Mais vous êtes pour le RIC ?
Dans certaines circonstances, oui, il y a besoin de demander l'avis des citoyens. Mais par exemple, pourquoi dans une entreprise, les salariés n'ont pas le droit de s'exprimer ? Donc vous voyez, la question de la démocratie, elle est plus large qu'uniquement par rapport à un gouvernement des lois. Les salariés dans une entreprise, ici par exemple, la Radio France, devraient pouvoir donner leur avis sur les économies prévues, la restructuration ou la réorganisation, par exemple. Mais nous demandons... et nous avons été les premiers à nous battre contre la privatisation d'aéroports de Paris. Il y a un RIP.
Oui, référendum d'initiative populaire.
Il y a un RIP. Il faut obtenir 4,7 millions de signatures, non.
De soutien.
De soutien et de connexion. C'est très compliqué. Ben voilà, agissons ensemble, Yvan et les autres, pour que on puisse demander l'avis au peuple.
Pour conclure, je vais formuler la question de Gilles, qui est au standard, on n'aura pas le temps de le prendre. Gilles vous dit, Force ouvrière a déjà programmé une journée de mobilisation le samedi 21 septembre. Est-ce que la CGT se joindra à cette manifestation ?
Le 21 septembre, Force ouvrière fait ça tout seul, c'est un meeting. En tout cas, nous travaillons pour une journée d'action à la rentrée, qui pourrait s'inscrire d'ailleurs dans deux journées qui sont hyper importantes, le 20 septembre et le 27 septembre, autour de l'urgence climatique. Parce que pour nous, urgence sociale et urgence climatique sont incontournables. Et donc la CGT va travailler avec les organisations de jeunesse pour que cette semaine du 20 au 27, eh bien, il y ait plusieurs initiatives. Et il y aura un mouvement, je peux vous le garantir, rapidement, dans cette semaine, contre la politique du gouvernement et pour un monde merveilleux.
C'est facile de défendre les syndicats des industries, parfois des industries lourdes, et la lutte pour le climat.
Oui, c'est facile, parce que les salariés ont des solutions. Et c'est le manque d'investissement qui fait qu'il y a des industries polluantes. Il suffit d'investir, et très facilement, on a des industries qui sont moins polluantes. Il y a aussi des salariés qui ont des projets pour faire évoluer leur entreprise. Vous voyez, on en revient à la démocratie. Tant que c'est pas rentable, on n'écoute pas les salariés.
Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, merci d'être venu sur France Inter.